C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Tu sais, il y a des pénuries d'employés un peu partout dans plein de pans de la société, on le sait. Dans les hôpitaux, d'une part, ça, on en parle chaque jour. Dans les écoles, on a aussi une pénurie de profs. Ben, il y a aussi pénurie de chauffeurs d'autobus. Et ça, ça a des effets là à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, sur plusieurs familles dans un certain quartier, parce que ça fait près de 3 semaines là qu'il n'y a pas de service d'autobus scolaire pour ramasser les enfants le matin. Mélissa, elle nous a demandé de ne pas donner son nom de famille, et la mère d'un enfant qui fréquente l'école primaire 1000 Sports du centre de service scolaire Marie-Victorin. Mélissa, salut!
Oui, bonjour.
Donc, comment ça se passe depuis le 4 novembre pour vous?
Ben, en fait, la situation est problématique depuis le début de la rentrée. On le sait, il y avait une grève là, des autobus, des chauffeurs d'autobus. Ça s'était réglé, mais nous, en fait, les problèmes ont commencé dès la rentrée. Donc, dès la première semaine, on n'avait aucun service d'autobus scolaire. Fait qu'il fallait aller les porter autant le matin que le soir. Jusque-là, on pensait que c'était dû au fait que la grève venait d'être, dans le fond, réglé, qu'il y avait peut-être un enjeu au niveau justement du personnel, que c'est récurrent. Mais non, ça s'est placé après une semaine, on était content, mais ça a continué d'être, récurrent jusqu'à la fin octobre. C'était on and off. Des fois, on était 2 jours, pas de transport le soir, des fois 2 jours le matin. Fait qu'on s'arrangeait aux parents, mais là, depuis le 4 novembre, en fait, c'est aucun service du tout le matin. On reçoit une notification sur l'application Megaphone, comme quoi il n'y aura pas de service. On reçoit ça à 6h15 pile. Puis, faut s'arranger. Autrement dit, c'est vraiment ça.
Donc c'est vraiment là, on vous donne un délai qui est très, très court. C'est 6h15, oui, là, oui. Ça laisse pas beaucoup de temps pour se revirer, là.
Non. Puis ça, c'est dans tous les cas, là. Je veux dire que ce soit en après-midi ou quand c'était de temps à autre, sur l'après-midi, on recevait, disons, une notification à 14h30. Heureusement, l'école des sports termine tard, mais elle a aussi la problématique qu'elle commence tard. Donc, si elle commence tard, ben faut que les gens arrivent plus tard au bureau, faut qu'ils trouvent des solutions. Parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée. On est juste avisé que l'autobus ne passera pas à l'arrière. C'est juste ça qui se passe.
OK. Est-ce que, là, chez vous, comment vous vous arrangez? Qui fait quoi entre les deux parents?
Ben moi, je suis là le matin. Donc, sincèrement, pour moi qui est un employé de bureau, c'est moins problématique. Je réussis quand même à m'arranger. Les journées que je suis en télétravail, ben je commence plus tôt, je vais le porter. Mais les journées que je suis au bureau, forcément, j'arrive en retard. Ça, c'est un peu plus problématique parce qu'on sait, il y a beaucoup de réunions qui commencent à 9h, mais moi, je peux pas être au bureau avant 9h15. Donc, pour moi qui est un employé de bureau, je dirais peut-être que ma situation est plus facile à vivre que d'autres, mais je me mets à la place justement d'un employé d'hôpital où ils peuvent pas moduler leur horaire comme ils veulent. Donc, c'est là que je trouve que il faudrait qu'il y ait une solution ou qu'ils avisent, ben, disons, pour la semaine au complet, il n'y aura pas de transport. Trouver une alternative. Mais là, on est avisé le matin. Donc, on vit au jour le jour. Est-ce que le service va reprendre ou non? On le sait pas.
Qu'est-ce qui vous aiderait présentement, Mélissa?
Ben, je pense qu'il devrait, les services de transport scolaire devraient travailler avec l'école parce que forcément, les élèves qui sont impactés présentement, c'est des élèves qui n'ont pas au service de garde autant le matin que le soir. Donc, ils sont pas inscrits. Donc, autrement dit, moi, je peux pas aller les porter, disons, à 8h pour être à l'heure au travail, même si l'autobus n'est pas là. Mais là, présentement, on a peu de communication avec ceux qui sont d'accord. Vu la situation exceptionnelle, ben, soit votre enfant peut arriver plus tôt le matin ou vous pouvez le laisser un petit peu le soir si vous n'êtes pas capable d'être là à l'heure pile que l'autobus aurait passé. Mais là, présentement, on n'a eu aucune communication pour nous proposer au moins une alternative qui nous aiderait dans la situation actuelle, là.
Question peut-être la niaiseuse, là, mais vous ne pouvez pas juste inscrire votre enfant au service de garde pour pouvoir le déposer un peu avant puis qu'il reste un peu après l'école?
Ben, ce qui arrive, c'est que c'est quand même beaucoup de coûts. Le service de garde, je pense, je vais de mémoire, mais c'est autour de 8 $ par jour. Payer 8 $ par jour alors que normalement, j'aurais pas besoin du service parce que il y a quelqu'un à la maison qui est là normalement le matin quand il prend l'autobus, il apprend à 8h15. Donc c'est une heure normale pour qu'il parte à l'école. Donc moi, j'ai pas besoin du service de garde. Fait que payer quasiment 200 $, je crois, par mois, parce que le service de transport scolaire, présentement, assure pas le service qui est censé. Dans le coût de la vie actuelle, c'est pas une alternative intéressante pour moi de m'inscrire au service de garde si j'en ai pas vraiment un besoin, là.
OK. Et est-ce que, j'imagine, vous avez tenté de communiquer avec le centre de service scolaire Marie-Victorin? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Oui, ben j'ai envoyé deux courriels, mais j'ai pas de réponse. Encore, à la rentrée, quand il y avait une problématique, j'avais une réponse. On travaille sur la situation. On est au courant de la problématique avec Mille Sports. Puis je pense que la problématique était dans plusieurs écoles à ce moment-là. Mais là, vous voyez, j'ai envoyé deux courriels dernièrement juste pour savoir, ben, avez-vous une idée de quand? Parce que je me doute que c'est peut-être un congé maladie puis que c'est dur à remplacer. Mmh. Mais là, c'est comme un silence radio.
Non, on comprend là que il y a une compagnie privée qui fait affaire avec la commission scolaire, mais ce serait quand. Puis il y a sans doute des bonnes raisons. Là, je veux dire, on manque de personnel partout, mais ce serait peut-être fun d'avoir une réponse.
Exact, parce que, tu sais, je veux dire, le but d'envoyer un enfant dans une école autre que son école de quartier, c'est justement comme l'école Mille Sports, c'est un projet pédagogique super particulier, c'est à vocation sportive, donc c'est super intéressant. L'enfant passe par un processus, il est admis ou il est pas admis, mais forcément, ça devient pas son école de quartier, donc il peut pas y aller à pied. Donc, le service doit pouvoir être maintenu. Puis que ça arrive une fois de temps en temps, c'est acceptable, mais que là, ça devient récurrent depuis le 4 novembre, puis qu'au début de la rentrée scolaire, on n'avait juste pas de service. C'est même déstabilisant pour l'enfant de dire, est-ce que ce matin, je prends l'autobus, est-ce que ce soir, je prends l'autobus? Il y a comme, même nous, on n'a pas la réponse.
Ben merci, Mélissa, de nous avoir raconté tout ça. Puis écoutez, bonne chance, on se croise les doigts pour que le service reprenne.
Ben oui, mais c'est plate pour tout le monde, là, le manque de personnel. On le comprend, c'est juste qu'il faut trouver des solutions, par contre.
Bien dit. Merci, à la prochaine.
Merci, bonne fin de journée.
C'était Mélissa, qui est maman d'un enfant qui fréquente l'école Mille Sports. Ça, c'est à Saint-Hubert, centre de service scolaire Marie-Victorin. Écoutez, on a posé des questions au centre de service scolaire. Réponse, oui, en effet, il y a un trajet d'autobus vers l'école Mille Sports qui a été affecté récemment en raison de ce qu'on appelle une indisponibilité temporaire de ressources du côté d'autobus Longueuil. On dit travailler en concertation avec le transporteur pour trouver une solution. Et là, en même temps que je faisais l'entrevue avec Mélissa, deux textos qui sont entrés dans la messagerie, deux textos de deux personnes différentes. Ok, je vous les lis. Ma femme est chauffeuse d'autobus, ça paye pas. L'autre message, mon conjoint est chauffeur d'autobus scolaire. Il adore son travail, le fait très bien, mais les conditions de travail sont tellement mauvaises que la rétention de nouveaux chauffeurs est difficile. Peut-être que ceci explique cela. J'accueille en studio quelqu'un au destin assez particulier, un gars de cuisine qui a fait ses classes notamment au Toquet. Et en 2004, il s'est dit... Je vais aller dans l'Ouest, je vais aller à Vancouver, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas pour moi. Ben, il a trouvé une vie là-bas, il a ouvert un restaurant. Et ce restaurant-là ça s'appelle le Saint Lawrence. Et on y sert de la cuisine québécoise, c'est un bistrot québécois. Ben, Jean-Christophe Poirier, non seulement avait un succès critique, mais là, il y a aussi une étoile dans sa toque parce que le guide Michelin vient de lui attribuer une étoile. C'est très, très prestigieux dans le monde de la restauration. Il est en studio. Jean-Christophe, salut!
Salut.
Merci. Bienvenue chez toi. Écoute, comment t'as réagi quand t'as appris que Michelin te donnait une étoile?
Dans la soirée, c'était un peu flou. Le lendemain, c'est là que j'ai plus réalisé. Même là encore, j'y crois pas. C'est un peu. Dans ma carrière, j'ai toujours dit que les étoiles Michelin, ce sera pas pour moi. Ils viendront pas au Canada. Et puis, il y a quelques mois, ils l'ont annoncé. Ça va être Toronto en premier après Vancouver. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être la chance d'y toucher.
Ouais. Quand tu as su qu'il venait à Vancouver, puis on va s'attarder là, sur le processus qui fait que Michelin débarque dans une ville, quand tu as su que le guide Michelin envoyait des critiques à Vancouver, est-ce que tu t'es dit, voilà ma chance, ou même là, tu te disais, je suis pas dans cette catégorie-là?
Non, je me suis dit, voilà ma chance. Je me suis tout le temps dit que si le Saint Lawrence était à quelque part en Europe, ça serait une cuisine digne d'une étoile Michelin. J'ai confiance en notre travail, en notre équipe. Donc, quand on l'a su, on s'est dit, on continue, on pousse, comme on le fait chaque jour, dans le fond. Et puis, si ça la donne, si aime ce qu'on fait, et voilà, on a une.
Vous les invitez à passer à votre restaurant? Comment
non,
ça marche?
Non, sont quand même assez bons. Hein. Il n'y a personne qui le sait.
Ah oui?
Il n'y a absolument personne qui le sait. Et puis, la façon dont ils fonctionnent, ils travaillent en équipe. Donc, le capitaine, il va en premier. Il dit, moi, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui est très spécial. Et là, il envoie une deuxième personne. Et la deuxième personne envoie une troisième personne. Et puis, à la fin de la semaine, j'imagine, ils s'assoient autour de la table. Puis wow. Là, ils en discutent.
Ouais. Okay, il n'y a pas moyen de les reconnaître s'ils sont européens ou s'ils sont seuls ou non?
Absolument pas. C'est pour ça que c'est tellement dur d'avoir une étoile Michelin, ou deux ou trois, parce qu'il n'y a personne qui les connaît.
Mais Jean-Christophe, j'ai entendu des histoires célèbres de chefs français qui devenait quasiment fou à essayer de deviner qui était parmi les clients peut-être un critique du guide Michelin. Est-ce que ça t'obsédait quand t'as su que Michelin débarquait en ville?
Écoute, c'est la première chose que je me suis dit à moi-même en réflexion. J'ai dit non, je ne deviendrai pas obsédé des étoiles Michelin. Si ils trouvent que je fais du bon travail, parfait, je vais l'avoir. Sinon, moi, je le sais personnellement qu'on fait du bon travail et puis on va continuer. Mais l'obsession, et puis moi, je veux pas tomber là-dedans.
Jean-Christophe, tu fais de la cuisine québécoise. Mm-hmm. C'est un bistrot québécois, fièrement québécois, à Vancouver, mm-hmm. dans le quartier Railtown. C'est ouvert le Saint-Laurent depuis 2017. C'est quoi de la cuisine québécoise pour toi?
Voilà la question.
Moi, je suis sur le site, là, présentant notre restaurant. C'est beau, en tout cas.
Je trouve que ça serait tellement facile de pointer du doigt sur des plats typiques québécois comme la poutine, la tarte au sucre, le pudding chômeur, le ragoût de boulette, la tourtière. Pour moi, je le vois plus, c'est pas une recette, c'est plus une philosophie. Donc, par exemple, si on voyage en France, de région en région, la cuisine va changer. Le climat même change. Et puis là, on trouve des plats typiques, des recettes de famille, et puis c'est différent. Donc, j'ai réalisé que si je traitais le Québec comme s'il était une région de la France, même s'il ne l'est pas, ben j'aurais une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Donc, pour moi, la cuisine québécoise, c'est par rapport à l'endroit où on est, par rapport au climat, notre culture, notre histoire. Donc, je tourne alentour de ça aussi. Bon, les Québécois, quoi que nous sommes créatifs, donc on s'amuse à réinventer les classiques français à notre façon.
Jean-Christophe, tu dis que c'est pas un plat, mais dans la critique du guide Michelin, on mentionne très, très rapidement des oreilles de Chris.
Oui, absolument. Donc, on voit que si je lis la critique qu'ils m'ont donnée, bon, là, je sais un peu quand ils sont venus, parce que en janvier et février, au Saint-Laurent, je fais un peu un repas cabane à sucre, plus alentour du sirop d'érable. Je me suis rendu compte que moi, je suis né au Québec, donc mon grand-père avait une cabane à sucre, mon oncle avait une cabane à sucre, mon père maintenant une cabane à sucre, mais dans l'Ouest, il y a tellement de personnes que ils n'ont jamais eu l'expérience.
Dans l'Ouest, c'est pas une tradition.
Non, c'est pas une tradition. Okay. Il n'y a pas de sirop d'érable dans l'Ouest. Il n'y a pas la température pour ça. Il fait chaud, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis resté. Donc, en parlant avec mes clients, ils me disent, ah, moi, je l'ai vu à la télévision. J'ai lu des livres ou j'en ai entendu parler, mais jamais j'ai eu l'expérience de mettre de la tire sur la neige. Ouais. Donc, de là, j'ai commencé vraiment à faire ces soupers-là en début de l'année, parce que c'est là qu'il est le plus froid. Je sais que le sirop d'érable il vient après au Québec, mais pour là-bas, ça fait un peu plus de sens.
Et vous mettez des... c'est écrit les oreilles de Chris avec sirop d'érable, mais mm-hmm. les épices montréalaises aussi. Donc, les épices à steak, c'est ça? Vous mettez ça sur les... ce qu'on fait même pas ici au Québec.
Ouais, ben, c'est une bonne idée, il faudrait l'essayer. moi, je fais mes épices à steak au restaurant, j'en vends aussi, parce que, bon, il y en a pas non plus là-bas à Vancouver. Et puis, je trouve que ça goûtait bon les oreilles de Chris avec le sirop d'érable, puis le salé épicé des épices montréalais, ça faisait un bon contraste.
OK, à essayer.
Ouais.
donc, le bistrot là-bas, mm-hmm. Saint-Laurent, c'est fièrement québécois. Est-ce que c'est devenu peut-être une sorte de pèlerinage obligé pour les Québécois qui sont en visite à Vancouver?
Absolument. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent. Beaucoup de Québécois qui habitent à Vancouver ou même à Seattle, qui n'est pas trop loin, qui font le petit voyage pour venir manger au Saint-Laurent parce qu'ils s'ennuient de la maison, puis c'est plus proche.
Si ton restaurant, le Saint-Laurent, mm-hmm. avait pignon sur rue à Montréal, mm-hmm. Est-ce que tu servirais les mêmes choses ou tu as vraiment un avantage concurrentiel d'être le Québécois dans ce coin-là?
Je pense que oui, ça, c'est un avantage pour moi d'être là-bas. C'est une niche qui est seulement pour moi. Ouais. D'avoir le Saint-Laurent ici au Québec, je pense que les gens ont dit, ben non, on connaît ça, c'est rien de nouveau, mais là-bas, c'est quelque chose de totalement différent.
C'est ici, quand on parle de restauration, tu sais, on a une belle scène de restaurants mm-hmm. à Montréal, absolument. Au Québec, à Vancouver, mais ce qui vient avec ça dans les histoires, là, puis il y avait un documentaire sur la plateforme Mordu dont on a parlé la semaine passée, c'est à quel point c'est dur. Mm-hmm. Comment on fait pour pas virer fou avec tout le travail qu'il y a à faire dans un restaurant, puis souvent le gros du travail, c'est pas nécessairement la bouffe.
Non, c'est plus au niveau des employés. Je crois qu'avec la maturité, puis ça fait longtemps que je le fais, on devient de plus en plus mature. Puis j'ai une famille aussi, j'ai deux petites filles, je veux passer du temps à la maison, je veux avoir une balance qui est bon, entre la vie et le travail. Je suis là comme, je vois ça un peu comme une équipe de sport un peu. Moi, je suis le coach, hein. Puis le coach, Martin Saint-Louis, ben, il joue pas sur la glace, il est là pour supporter ses joueurs. Ouais. C'est un peu ça que moi, je fais maintenant. Je suis là pour supporter mes cuisiniers, les inspirer, donner une direction, de prendre soin d'eux pour qu'ils aient une belle vie eux autres ici. Et puis, en sachant que si je fais ça, ben, ils vont prendre soin de mes clients.
En terminant, Jean-Christophe Poirier, tu es en ville dans ton Québec natal pour faire la promotion d'un livre,
oui.
Where the River Narrows, on peut traduire ça par Où le fleuve rétrécit, et c'est un clin d'œil au Québec.
Absolument. Donc, mon nouveau livre qui est sorti il y a deux semaines, c'est tout nouveau. Un livre sur la cuisine française, sur le Québec, sur ma carrière, sur le livre Saint-Laurent, donc divisé en quatre chapitres. On commence avec le Québec, ensuite le deuxième chapitre, classique français. Ces deux chapitres-là me donnent Saint-Laurent et le quatrième qui est la cuisine à la maison. Donc, des recettes pour un peu tout le monde aussi, non pas les recettes du Saint-Laurent, mais pour les cuisiniers professionnels.
Peut-être une traduction française bientôt?
En espérant qu'une maison d'édition va acheter les droits.
Bon, ben, écoute, le message est lancé. Ouais. Jean-Christophe Poirier est en ville. C'est le deuxième chef étoilé Michelin québécois. Le premier était Hugues Dufour qui œuvrait à New York, le récolteur en 2014. Si vous voulez ses coordonnées, ben, c'est le restaurant Saint-Laurent à Vancouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Bonne fin de séjour au Québec. C'était Jean-Christophe Poirier, restaurateur. Premier Québécois au Canada à récolter une étoile Michelin.
Voici Catherine Beauchamp.
Votre certificat de libération?
Un genre de faux passeport pour ma liberté?
Liberté conditionnelle, madame.
Sous-estimez pas les défis qui se présentent devant vous, hein? Comme l'argent, le travail, l'hygiène de vie, la famille. N'oubliez pas que la nouvelle femme que vous devenez, ils la connaissent pas vraiment.
Moi non plus. Ça donne bien. Hein?
Ma mère est en studio. Non, je ne parle pas de celle qui m'a donné la vie. Je parle de Chantal Fontaine, qui est dans le rôle titre de la série Ma mère. Salut Chantal.
Salut.
C'est un beau succès, Ma mère, succès critique. Tout le monde aime ça.
Oui.
Donc ben, moi.
Bonne nouvelle.
Non, mais je suis contente qu'on te reçoive aussi parce que ce soir, on va présenter l'épisode 3.
Ouais.
Et puis là, à chaque fois qu'on entame un épisode, on descend d'une couche. Hein. T'sais, on va voir un petit peu plus, le côté un peu plus sombre du personnage de Chantal Bélanger que t'incarnes dans Ma mère et qui est une ex-détenue. Elle s'est fait prendre pour fraude. Elle est bipolaire aussi, donc affectée par la maladie mentale. Elle a eu des problèmes de consommation. Puis là, c'est un peu le retour à la vie, la reconnexion avec la vraie vie.
Ouais.
Et la famille.
Ouais.
Et je te connais quand même un peu. Je me dis, c'est pas toi, Chantal Bélanger.
Absolument pas.
T'es allée la chercher où, cette personne qui est quand même trash, là?
Ouais. Ben, je suis allée dans la compréhension. Je veux dire, moi, n'importe quel personnage que je vais aborder, je vais toujours essayer de le comprendre dans ma tête avant de le descendre dans mon corps. Donc, ça a été des recherches, ça a été de parler à des gens qui sont touchés de près par la bipolarité et d'avoir des conversations avec eux autres, de comprendre c'est quoi les ressorts, c'est quoi les déclencheurs, comment ça se manifeste. Beaucoup de YouTube. Merci YouTube.
Qu'est-ce qu'il y avait sur YouTube?
Ben,
que tu
il y a énormément de gens qui sont atteints du trouble bipolaire qui parlent de leur réalité. Beaucoup d'émissions, tu sais, les Français sont bien forts là-dessus, là, des psychiatres qui parlent aussi du trouble bipolaire. Donc ça, j'ai vraiment écouté beaucoup de gens parler de leur réalité avec la maladie. Et c'est ça. Puis après ça, ben c'est de travailler avec les textes de Anne Boyer, Michel Dastou, qui était formidable. Puis avec aussi le concours beaucoup de François Bouvier, le réalisateur.
Dans les rôles qu'on t'offre depuis quelques années, là, vraiment, on sort de la Chantal qu'on connaissait. Tu sais, c'est comme ça que je t'aime. Écoute, je t'ai pas reconnu dans les premiers épisodes.
Moi aussi, ça a été long.
Je sais pas pourquoi.
T'étais
là, dans ce rôle-là aussi, est-ce que c'est un de tes désirs ou t'es chanceuse? Il y a des gens qui t'offrent maintenant une palette de rôles pour te sortir de ta zone de confort.
Ben c'est sûr que tu sais, j'ai joué pendant 12 ans à Virginie, j'ai fait ensuite Julie d'Avignon, 7 ans à Yamaska. Fait que c'est sûr que j'avais une envie de jouer des personnages un peu plus en marge. Mm-hmm. Puis ben la vie a fait que ça s'est présenté avec Janine. Je pense que c'est Janine qui est venue changer un peu la donne. jouer pour peut-être enlever de la tête de « C'est comme ça que je t'aime ». Tu sais, peut-être que ça a changé dans la tête des réalisateurs, de ceux qui pensent à des actrices pour des rôles
ils sont dit incapables
d'aller ailleurs, entre guillemets, là, tu sais, parce que je pense que tout acteur, actrice, c'est ce qu'il souhaite, tu sais, d'élargir un peu puis d'aller ailleurs. Tu sais, moi, j'ai absolument rien contre jouer la femme contemporaine, droite, femme de tête et tout, mais c'est sûr que, tu sais, à 57 ans, je pense que j'ai le potentiel puis j'ai le talent pour jouer quelque chose de costaud, puis c'est le fun que ça me soit offert, mais je suis sûr que n'importe qui m'écoute, qui fait ce métier-là, rêve de ça aussi.
Et ça arrive, ça, qu'on tombe sur un rôle puis bang, la perception que peut avoir le milieu, les personnes qui font du casting, les réalisateurs, réalisatrices, change complètement?
Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que moi, c'était tellement, tu sais, c'était quand même, Virginie, ça a été 4 soirs par semaine pendant 12 ans, tu sais. On a dit, va-t-elle rejouer après? Probablement pas.
OK.
Oui, tu sais, moi, je disais,
comme si elle était enfermée dans
Bobino, ce rôle-là. Séraphin, on les a toutes passées, là. Fait que, donc, oui, c'est ça. Donc, fait que c'est ça, je pense que oui, quand, des fois, dans l'inconscient des gens, tout à coup, ah, ben, mon Dieu, elle est capable de jouer quelque chose. Tu sais, Janine, les gens m'ont pas reconnue, là. Tu sais, c'est à mille lieues de ce que j'avais proposé. Fait que tout à coup, ben, ça ouvre une porte et tant mieux. Je suis bien contente que cette porte-là soit ouverte.
Ce qui est particulier, c'est que dans C'est comme ça que je t'aime, tu joues avec Marilyn Castonguay.
Ouais.
Qui joue le rôle du Guette. On te voit présentement à la télévision dans Un lien familial. Tu joues avec Rachel Gratton. Et là, Marilyn Castonguay, Rachel Gratton jouent tes deux filles
ben
dans
oui,
Ma mère.
Je sais.
Puis là, ça doit être particulier, mais c'est pas pantoute les mêmes
liens. Rien à voir.
Il y a plus de Huguette. Hey, Marilyn, nous, ça va très loin dans cette proposition-là. Elle est un peu comme le clone de sa mère, là, tu sais, qui a pris les mauvais plis, qui a eu une enfance gâchée. Fait qu'elle, elle est très sombre aussi. Puis là, tu vois Rachel, qui est très lumineuse dans Un lien familial. C'est bizarre d'arriver sur un plateau de même, non? D'aller ailleurs
pour
avec
nous
les mêmes
autres, c'était franchement une belle retrouvaille, là, tu sais. C'était vraiment chouette parce qu'on se connaissait déjà, là. Puis 6 heures, c'est vite tourné. C'est 30 jours de tournage. Alors, on appréciait de déjà avoir joué ensemble puis de se connaître. Mais oui, je sais que c'est particulier, ça. C'est la vie à TV au Québec.
mais parlons-en. 30 jours de tournage.
Ouais.
C'est extrêmement rapide. Est-ce qu'on approche de la limite de la rapidité en termes de ce qu'on peut faire en télé?
Oh mon Dieu, c'est sûr que si on pouvait, on pourrait facilement prendre plus de temps. Clairement,
non, mais
c'est souvent. Ben, si tu parles à moi, non. Mais tu sais, je me souviens, puis ça me passe par la tête de cet exemple-là. J'ai joué longtemps avec Nicole Leblanc dans Virginie. Puis Nicole Leblanc, qui était une de nos grandes actrices, mais une époque où il y avait des semaines de répétition pour jouer le temps d'une paix et tout ça. Et elle m'avait dit, Chantal, ça m'a enlevé le goût de jouer. Donc, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ça fait une grande sélection naturelle, la vitesse à laquelle on tourne. Est-ce que c'est positif? Certes, non. Je pense pas, mais c'est toujours les sous qui parlent. Puis c'est de plus en plus, on tourne énormément de ce temps-ci, mais c'est toujours la même tarte qui est divisée par de plus en plus de personnes, incluant les séries web. Donc, ça fait qu'il y a des séries qui se font, mais avec de moins en moins de budget. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les acteurs, je pense.
Intéressant. Chantal Fontaine, oui. On va te garder pour la pause. On va finir notre première heure avec toi.
Merci.
C'est France 4, Australie 1. On approche des arrêts de jeu. Chantal Fontaine est avec nous. Ton pronostic pour la Coupe du Monde, c'est quoi?
Je ne sais tellement pas. Je savais juste que Cristiano Ronaldo était dans le H avec le Portugal. C'est tout ce que je sais.
Tout le monde le sait.
C'est
bien connu.
Moi, je ne savais pas.
Revenons au jeu d'actrice. Catherine?
Chantal, est-ce que tu considères que tu as toujours été bien servie dans ta carrière? On te connaît, on t'a vu dans Virginie. Est-ce que tu sens que tu as toujours eu des rôles à la hauteur de ce que tu étais capable de donner? Est-ce que tu as manqué de travail à un certain moment donné?
Ben c'est sûr que j'ai manqué de travail, mais tu sais, j'ai commencé à jouer énormément sur Virginie, j'avais 30 ans. Et c'était parfait pour moi, ça m'a appris un paquet de, tu sais, ça m'a appris j'ai une vision du métier qui est la mienne parce que j'ai joué 1350 demi-heures là, tu sais. Mais puis oui, il y a eu des temps morts, mais je pense que ça vient avec ce métier-là. Si tu veux avoir ta paye tous les semaines, change de job parce que c'est pas ça qui va arriver.
C'est paniquant les temps morts.
Ben oui, ça a été difficile quand même. Je me souviens qu'un an après Virginie, c'est là que Anne Boyer m'a appelée pour m'offrir Julie d'Avignon dans Yamaska, puis j'en ai pleuré là parce que je savais pas s'il y avait une suite à ma vie d'actrice.
Mmh.
Fait qu'il y a des après Yamaska, il y a eu pratiquement 2 ans, mais encore là, j'avais mes restaurants. Est-ce que j'envoyais le message que j'étais plus une femme d'affaires qu'une actrice? Là, depuis que les restaurants sont fermés, je travaille plus. Est-ce que c'est difficile d'être deux choses au Québec?
Oui.
En tout cas, peut-être. Mais non, je pense qu'aujourd'hui et à l'âge que j'ai avec le métier que j'ai, je suis très, très contente de ce que je joue et de ce qu'on m'offre.
Ce qui était une particularité à l'époque de Virginie, est devenu un peu la norme. Tu sais, t'as stat indéfendable des émissions quotidiennes.
Est-ce qu'il y a
des gens qui t'appellent pour te dire, j'embarque là-dedans. Toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu peux me donner des conseils ou est-ce que je le fais ou je le fais pas?
Ah non.
Non?
Non, il n'y a pas eu personne qui m'a demandé ça.
Est-ce que tu retournerais dans une quotidienne?
Oui. Oui, si le rôle m'intéresse. T'sais, moi, le format m'importe peu, là, en fait. C'est le personnage qui me tente, là, t'sais. Alors, oui, je pourrais, mur à mur, pas en lead, pas en rôle principal, par exemple.
Chantal Fontaine, j'ai vu, là, il y a quelques temps, là, je pense que c'est Hugo Dumas qui disait ça. Écoutez, il disait, c'est mêlant pour le téléspectateur parce que il y a des comédiens et comédiennes qui reviennent d'une série à l'autre. Mais là, je t'entends parler de des moments où t'as pas tourné.
Ouais.
C'est ce qui explique tout ça, je pense, c'est un peu la mentalité. Quand ça passe, tu le prends.
Exactement. Puis tu sais, aujourd'hui, ce qui tourne, oui, j'ai 4 shows en ondes, mais tu sais, Un lien familial, j'ai tourné ça il y a 2 ans. C'est comme ça que je t'aime, j'ai tourné ça il y a 1 an et demi. Fait que ça, c'est la loi de la diffusion, à un moment donné, là, que ça se retrouve la même semaine. Mais moi, dans la vie, j'ai plein de temps mort. Là,
mais là, tu tournes présentement.
Oui, je suis sur le nouvel opus de Jean-François Rivard, qui s'appelle Bon matin, Chuck.
Et Jean-François Rivard, c'est le réalisateur de
C'est comme ça que je t'aime.
Fait que ça, Janine a encore apporté autre chose à ta vie.
Ouais.
Et t'as souri, ça veut dire que ça va être popé.
Exactement.
T'aimes ça, tourner ça, qu'est-ce que tu joues là-dedans?
Je joue Marie, une psychiatre.
Oh, l'autre côté.
Oui, spécialisé dans les dépendances.
Bon matin, Chuck.
Bon matin, Chuck.
OK, c'est assumé parce que normalement, bon matin, ça se dit pas.
En français?
C'est ça.
OK,
c'est
assumé. Ça tourne autour de ça, là.
Alors donc, oui, fait que belle rencontre. On est en train de tourner ça présentement à Sherbrooke.
C'est encore de la comédie?
Sherbrooke pour les intimes, bien sûr.
OK.
Mais mordante.
OK.
OK. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Merci Chantal Fontaine.
Ben merci.
Bonne chance avec la vie de ma mère. Je pense pas qu'il y ait une saison 2, mais
non. Ce soir 20h.
Sait-on jamais.
TVA.
Sait-on jamais. Parfait. Merci beaucoup. C'était Chantal Fontaine. Those in green are desperate for the whistle. And there it is. A group stage start beyond Saudi Arabia. Lionel Messi nullified, Argentina beaten, and beaten the hard way from a goal behind. Oui, il y a un choc dans le monde du soccer aujourd'hui. L'Argentine, qui est toujours une puissance, qui a gagné la Coupe du Monde à plusieurs reprises, qui donne des joueurs en club depuis des années, dont un des meilleurs, sinon le meilleur de la planète, Lionel Messi. L'Argentine affrontait dans son match inaugural de Coupe du Monde l'équipe d'Arabie Saoudite et, écoutez, personne pariait sur l'Arabie Saoudite. Ben, l'Arabie Saoudite a causé la surprise, victoire de 2-1. Dans la vie, je connais 2 Argentins. Je connais Arcadio Marcuzzi qu'on a pu entendre à cette antenne à la description des matchs du CF Montréal avec notre ami Jérémy Filosa. Et je connais un garçon que j'ai croisé en télé, il est recherché, il s'appelle Nicolas Arguindé. Il est sous le choc et il est au bout du fil. Salut Nicolas!
Salut Patrick, ça va bien?
Raconte-moi ta matinée.
Écoute, transparence totale, c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai 4 ans, je pense, que je me lève pas pour un match de l'Argentine. C'est la première fois que je manquais un match de la sélection argentine. Dans une Coupe du Monde, je pense que j'aurais dû me lever. Je sais pas si ça aurait eu de l'effet, mais moi, j'avais prédit 8-0 pour l'Argentine. Même 4-0 si ça allait mal. Donc, quand j'ai vu le score ce matin, mais ça a été un coup de massue sur la tête, là, évidemment.
Donc, tu as choisi, Nicolas, de pas te lever à 5h du matin parce que la victoire était dans la poche.
Un peu, ouais, je vais t'avouer, un peu dans la poche, j'avais besoin de dormir. Puis, c'était pas un grand match en soi, Mais c'est tout le pays, toute l'Argentine est soufflé en ce moment là, parce que je pense que pour le pays entier, ce match-là était dans la poche, parce que l'Argentine, ça faisait 36 matchs qu'elle ne perdait pas. Donc on s'attendait pas à ce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est loin d'être une puissance au football, mette fin à ces 36 matchs-là. Et c'est aussi une Coupe du Monde qui est très importante. La dernière pour Messi. La première sans Maradona. Donc, sans Maradona vivant. Donc, oui, c'est vraiment un choc là, en ce moment en Argentine.
Mais t'as reçu plusieurs textos d'amis, ouais, de parenté en Argentine. C'est quoi l'état d'esprit là-dedans? C'est-tu de la colère, le choc? On demande au gouvernement de démissionner, c'est quoi?
Ben, c'est un choc. Je disais tantôt à ton recherchiste que le tu sais, quand on dit là à la blague là ici là que le Canadien c'est un projet de société là,
ouais,
puis qu'on s'en plaint un peu, ben l'Argentine c'est ça fois 1 million. Pour te donner un exemple, la ministre du Travail la semaine passée, il y a 80% d'inflation en Argentine là. Okay.
80%. Wow.
Ouais. Puis Raquel Olmos, donc la ministre du Travail, elle a dit en premier, le plus important, on va gagner la Coupe du Monde, après on va s'occuper de l'inflation. Fait que ça, c'est pour te montrer à quel point les gens misent là-dessus pour avoir un moment de bonheur en ce moment, parce que bon, les choses vont mal sur le plan économique. C'est très mal parti. Cela dit, en 1990, l'Argentine s'était rendue en finale. Moi, j'étais tout petit, j'étais là-bas encore. Et le premier match avait été perdu contre le Cameroun. Donc, on essaie de rester dans cette vague-là de positivisme entre guillemets, ouais. Mais sinon, écoute, c'est les gens, parce que les gens se sont levés tôt là-bas aussi. Il était 7 heures, était un peu moins tôt qu'ici, mais là il y avait beaucoup de, l'humour argentin prend rapidement le dessus. On disait, ça se peut pas de perdre contre un pays qui a même pas de gazon. il reste encore là à ce temps, en plus il faut qu'on aille travailler. Les étudiants qui avaient eu, parce que là-bas en Argentine, je sais pas si tu le sais, mais les étudiants ont congé là quand il y a des matchs là.
Ah oui.
Les matchs là-bas, bon, il y a personne, il y a rien. J'ai déjà vécu une Coupe du Monde là-bas, puis il y a rien qui bouge là. Il y a pas une seule âme qui travaille ou qui étudie ou qui fait quoi que ce soit d'autre, que ce soit le président ou n'importe qui. Essaye pas de chercher un taxi ou quoi que ce soit. Donc les gens sont sous le choc, mais si les joueurs les premiers. Mais on verra samedi contre le Mexique. Là, j'espère qu'on va pouvoir se reprendre.
Écoute, je pense que ce match-là, tu vas le regarder.
Oui, je peux être sûr que je vais pas le manquer, Pat. Ouais, je vais être devant mon écran.
Tu t'en vas en Argentine le 4 décembre?
Oui, exactement. Exactement. Puis j'espère. En tout cas, moi, j'espérais pouvoir continuer à avoir les matchs là-bas, les phases finales. La finale, je vais entre autres à un mariage qui est le jour de la finale, donc voir le match de la finale et fêter ce mariage-là, donc tu vois un peu la belle confiance argentine là-dedans.
Un mariage argentin en Argentine avec une équipe, avec une sélection, oui, argentine en finale, ça pourrait être pas plate.
C'est ce qu'on s'imaginait, mais là on vient d'avoir un reality check que bon, la vie c'est un peu plus difficile, donc on va voir ce qui va se passer contre le Mexique puis contre la Pologne le mercredi prochain, je pense.
Okay, je te laisse pas partir avant que tu me dises en espagnol, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Oh mon Dieu, en espagnol. Et cette expression-là n'existe pas. Je sais pas là, qu'est-ce qu'on dirait, mais je peux te dire vamos Argentina y ganar et faut pas lâcher.
Parfait. Merci beaucoup, Nick. Plaisir de te parler. Bonne chance pour la suite aux Argentins.
C'est gentil. Okay.
Nicolas Arguindé, qui est un garçon que j'ai souvent croisé en télévision, recherchait sa émission dans les médias. Un des deux Argentins que je connaisse, avec Arcadio Marcuzzi.
Il y a un petit peu de tristesse dans la voix.
Mais mon Dieu! Écoute, il l'a dit tantôt, le Canadien, projet de société, on est investi en Argentine face au club national. Mmh. C'est un de ces pays où vraiment la terre, c'est comme si la terre avait tremblé aujourd'hui. C'est vraiment pas banal.
Moi, j'ai vu au Portugal l'euro et la ville, comme il disait, tout ferme. Et quand ils ont un but, tu le sais, parce que les murs tremblent. Et physiquement, là, parce que tout le monde crie en même temps. Imaginez des millions de personnes qui crient en même temps. Jamais on va vivre ça ici.
Patrick Lagacé, en accéléré.
c'est 23.